gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Je crois que ton micro ne fonctionne pas, je te confirme. Bonsoir.
Je t'avais prévu bonsoir. Le rouge.
Heureusement qu'on a testé avant. Alors bonsoir à toutes et à tous, évidemment, je recommence. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, toujours au 102.2 sur la bande FM et sur radiocanu.org partout ailleurs. C'est l'heure de la causerie avec un tout petit peu de retard.
Oui, mais c'est pas grave, c'était pour qu'on laisse Théo Charaf s'écouter lui-même à la radio. Et ça valait la peine et c'était très plaisant de le croiser d'ailleurs. Voilà.
C'est ça. Eh bien, la causerie ce soir dans les studios, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Nous avons Fab.
Bonsoir.
Et nous avons moi-même. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Yves. Et aussi un coucou aux copains de Dead Moon Knight qui sont juste avant nous, parce que oui. J'ai parlé de Théo, mais j'ai pas parlé de l'émission.
Donc effectivement.
Voilà. Et de Boomerang. Vous pouvez
oui, c'est ça en fait. Ça. Théo a passé sa soirée à Radio Canu.
Voilà. On balance tout dans les
c'est ça. Eh bien, avant de commencer, hein, vu qu'on est un petit peu à la bourre, on va essayer de faire rapide. Donc, pour nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, qui que vous soyez. Artistes ou auditeurs, auditrices, n'hésitez pas. On est toujours content d'avoir vos retours ou d'avoir des demandes de, enfin voilà, de, ouais, de venir à la causerie.
Et artistes au sens large, hein, nous on n'est pas photo, sculpture, peinture, tout. Voilà.
Tout. Donc c'est un mail qu'il faut nous envoyer à lacausericanu@gmail.com, lacausericanu tout attaché en minuscule, lacausericanu@gmail.com. Sinon vous retrouverez évidemment tous les podcasts sur le blog de l'émission, c'est à blogs au pluriel .radiocanu.org/lacauserie. Sinon vous tapez lacausericanu dans votre petit moteur de recherche et vous devriez tomber sur nous. Je le redis encore une fois, pour l'instant les commentaires sont désactivés sur les blogs suite à une attaque malveillante. Et ils devraient être remis tout prochainement, certainement, mais voilà, c'est les aléas de l'informatique et des attaques un peu massives.
Et vous nous retrouvez sur certains réseaux sociaux et sur les podcasts, les agglomérateurs de podcasts, comme on disait dans les années 90. Voilà.
Les podcasts existaient déjà dans les années 90.
Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, alors je l'ai fait comme ça.
Pour pas assumer ton âge. Alors.
44 ans.
Quel coming out.
Tu l'es fait. Merci Clara.
Ça, c'est bien pourri.
On va peut-être démarrer,
hein, vu qu'on a la bourse, on disait. Ouais. Fab, toi, tu veux nous parler d'un superbe progrès technologique voilà. Et guerrier.
Ouais, parce que la technique, c'est vachement bien. Non, alors, petit retour en arrière. Je vous rappelle que donc, dans la causerie numéro 300 du 26 mai 2019, nous avions déjà parlé du danger de l'émergence des robots tueurs armés. Et oui, vous vous en souvenez. En effet, hein, l'avancée en robotique et en intelligence artificielle couplée aux recherches militaires n'avait pas de quoi nous rassurer. Alors, j'ai déjà fait un sujet dessus, mais à l'époque, pour nous aider un peu, on pensait que l'émergence de ces robots ne serait pas pour tout de suite, que cela prendrait encore quelques années. C'était sous-estimé à quel point ce marché est un marché qui promet des milliards. Et du coup, me voilà un peu plus de 2 ans plus tard pour vous parler de ce que nous redoutions le plus, l'arrivée de robots armés quasiment autonomes. Voilà, c'est de... Oui, alors fais comme si tu étais là alors que tu allais fermer la porte. Donc voilà, donc... Il n'est toujours pas son micro. Donc, voilà.
Je disais you super.
Donc voilà. Non mais donc du coup voilà. Donc ouais, en fait, en moins de 2 ans, en fait, ont émergé les premiers robots armés autonomes. Donc la robotisation, je vais le rappeler, il y a un fort soutien militaire derrière. Hein, faut pas se mentir. Comme beaucoup de recherches à travers le monde, la recherche sur la robotique et sur les robots autonomes est fortement financée. Elles sont fortement, ces recherches, financées à des fins militaires ou de sécurité. Alors soyons clairs, hein, c'est un choix politique, c'est pas une fatalité, parce qu'on pourrait tout à fait orienter autrement. C'est juste que dans la façon dont le monde tourne et dans la façon dont les États donnent de l'argent, eh ben ils ont tendance à financer via l'armée plutôt que via, par exemple, faire des robots de secours ou des choses comme ça. Et le choix de faire orienter ces recherches sur ce sujet par des gens qui ne pensent pas, qui ne pensent plutôt que de façon paranoïaque et sécuritaire, hein, c'est le propre d'un militaire ou d'un policier, ne peut qu'avoir des incidents néfastes sur ce que cela donne. Donc, des sociétés comme Boston Dynamics, alors Boston Dynamics, vous les connaissez forcément, c'est les fameux robots qui font des saltos arrière que tout le monde montre. iRobot, que vous connaissez aussi parce qu'ils font le ménage chez vous, ce sont les fameux robots automatiques, enfin si vous avez les moyens, parce que moi, je n'ai pas le moyen de m'acheter ça.
Genre les petits aspirateurs.
Ouais, les petits aspirateurs, voilà. Okay. Donc, voilà. En fait, elles ont toute une branche dite militarisée ou sécuritaire, en fait, qui est souvent la branche qui leur rapporte le plus pour ces entreprises. Et on a même vu donc émerger des sociétés dédiées à 100% à la robotique militaire. Et c'est le cas, en fait, de l'entreprise Ghost Robotics. Vous avez vu, ils ont toujours des noms un peu sympas, hein, Ghost Robotics. Voilà. Et elle s'est donc spécialisée dans la robotique d'espionnage. D'où son nom. Ils sont pas bêtes. Hein. Mais aussi sur des robots de soutien aux militaires. Alors au départ, la notion de soutien était masquée sous l'idée d'avoir des robots porteurs ou capables d'aller sur des lieux dangereux pour les humains, comme des champs de mines par exemple. Mais ce mot soutien, c'est polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, vous savez, un soutien, c'est voilà. Donc la société a décidé d'aller dans une autre notion de soutien militarisé aux soldats, c'est-à-dire avoir un soutien réellement militarisé et automatisé au sens de rendu autonome. Et c'est là que le premier robot autonome armé naît. Voilà. C'est chouette, hein ?
Je le refais, là. Youhou ! C'est trop super.
Donc, je vais vous présenter Spur.
Spur.
Ouais, S-P-U-R. Spur, c'est son nom. Le fameux chien robot de la société Ghost Robotics s'appelle donc Spur. Ah oui, ça s'écrit Spur, mais on dit Spur. J'ai réécouté la vidéo pour être sûr. Ou s'ils sont américains. C'est Spur. Et donc, ça veut dire Special Purpose Unmanned Rifle. Ok ?
Ouais.
C'est beau, hein, dit comme ça. En français, fusil sans pilote à usage spécial. Voilà, c'est beaucoup plus...
Plus clair.
Plus clair. Donc, c'est tout un programme, hein, donc voilà. Alors, il se présente comme un robot en forme de chien. Mais alors, c'est pas un chihuahua, hein, ce serait plutôt un chien de taille assez grande, de façon berger des Pyrénées, vous voyez, le gros chien blanc, là. Voilà. Et armé d'une arme pouvant tirer via un canon contrôlé à distance et qui offre un tir de précision jusqu'à 1200 mètres. Ça, c'est dans la vidéo, je l'ai traduit. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller voir hein, sur le site de Ghost Robotics. Hein, vous avez donc une vidéo qui a été retirée, je tiens à le dire, suite en fait à plusieurs articles qui ont fait montrer du doigt ces robots. Et cette vidéo n'est plus aujourd'hui accessible. C'est-à-dire quand vous cliquez dessus, bah, ils vous disent oh, erreur 404. Voilà, donc
c'est marrant quand même.
Étonnant. Hein. Voilà, alors qu'elle était quand même assez visible. J'ai pu la voir moi. Il y a toujours des journalistes.
Non, mais c'est surtout que c'est marrant parce que c'est des fabricants de ce genre d'outils-là, et là ils n'assument pas tout à fait finalement de passer de l'aspirateur à.
Alors eux, ils n'ont jamais fait ça. C'était vraiment que de la robotique militarisée. Hein,
ah oui, robotique, bah, ouais. Qu'ils assument. Hein.
Mais je crois qu'en fait, bah, ils se sont rendu compte que ça avait un petit peu soulevé un tollé et que du coup, ils se sont dit « Ouh, putain, on n'a peut-être pas dû faire comme ça pour l'annoncer. » Voilà. Alors, en quoi ce chien robot est-il sans pilote? Parce que c'est ça qui est annoncé. Si l'arme est déclenchée à distance, parce que donc je vous rappelle que donc le fusil, pour l'instant, il reste déclenché par un humain à distance. Ça, c'est ce qu'ils nous vendent. Hein. Eh bien, en fait, le robot se déplace de façon totalement autonome grâce à la programmation d'une intelligence artificielle de déplacement et de gestion du terrain. Programmé, alors ça je vous reprends la fiche technique, hein, programmé à partir de milliers de films et de relevés sur les terrains militaires, réels ou d'entraînement. Voilà, ça, je le fais, essaye de faire avec la voix, vous savez qui fait pas.
Mais comment il peut savoir où il est censé aller?
Eh bien en fait, ils ont tout simplement automatisé ce qu'aurait fait un robot qui suit quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, bah, le robot, il va repérer le soldat à côté de qui il est, par exemple, et donc c'est son robot de soutien, ou alors le robot à côté de qui doit être, hein, vous voyez, comme une équipe, et du coup, il va suivre soit le soldat, soit les autres robots de son équipe. Tout simplement. Mais okay. Il peut se déplacer de façon totalement autonome, c'est-à-dire que il est pas piloté à distance.
Ok. En fait, il y a le, on va dire entre guillemets, le maître, ça sera le militaire.
Voilà. C'est un robot chien, hein, je vous rappelle.
Le maître, c'est le militaire, et en fait, à côté de lui, il aura une troupe de canidés robotisés, armés, quoi.
Et par exemple, ils expliquaient le maître, comme tu dis, pour être tout à fait sur une carte virtuelle, hein, sur une tablette, indiquer au robot tu vas à 3 km d'ici, et le robot sait y aller. Comme vous pourriez faire avec un chien en lui disant va chercher le troupeau de brebis. Voyez, c'est un peu le principe. Du coup, ce chien robot suit son maître comme un vrai chien, donc voilà, en évitant les balles et en étant capable de détecter les zones très dangereuses comme des zones sous tir de sniper ou encore avec des risques de mine. Et donc, on nous vend ça comme quelque chose de très 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 bien quand même. Il arrêtera donc son maître pour le protéger. S'il voit qu'il y a des snipers, voyez. Il dit « Oh, attention, là, t'es pas protégé. » Mais le plus flippant, bien que ce que j'ai décrit dessus soit déjà bien flippant, c'est que ce chien robot est donc armé et peut donc faire feu. Voilà. Alors, il y a quand même eu des réactions qui ont condamné tout ça. C'est quand même des gens qui disent « Là, on est en train de passer quelque chose qui est assez inquiétant. » Alors, il y a un article qui est très, très bien fait, qui est sur le site Trust My Science. Je vous invite à aller le lire entièrement. On peut lire, en fait, des réactions face à l'émergence de ce robot et surtout à sa commercialisation qui devrait arriver assez vite. C'est ça, en fait, qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un robot qui devrait arriver sur les terrains militaires dans 20 ans. On parle de quelque chose qui est déjà potentiellement vendu et qui pourrait arriver dans l'année à venir sur des terrains militaires. Donc, autant dire qu'elles sont alarmantes, ces réactions. C'est-à-dire que les gens ils disent oh, « Attendez, là, il y a peut-être un truc qu'on a raté au passage. » Comme le dit l'article, selon certains experts, cette technologie marque un jalon important dans le développement de robots capables de tuer, parce que c'est ça qui est derrière, en réalité, soulevant des questions éthiques et légales sur leur autorisation et sur leur utilisation. Parce que, voilà. Alors, par exemple, il y a Toby Walsh, qui est professeur d'intelligence artificielle à UNSW, the University of New South Wales de Sydney. Je suis nul en anglais. Voilà.
Mais ça s'entend à peine.
UNSW, voilà. de Sydney. Donc, il souligne, lui, dans cet article, comme des milliers de mes collègues, parce que c'est un peu, il se fait un peu le porte-voix de plein de ses collègues qui travaillent sur l'intelligence artificielle, je suis profondément préoccupé par ce genre de développement. Nous ne savons pas à quel point ces robots seront autonomes. Parce que le vrai problème de ce robot, c'est son degré d'autonomie. Parce que là, il se déplace déjà tout seul. Pas qu'il se mette à tirer tout seul, vous voyez, c'est un peu ça qui est derrière, quoi. Et il souligne qu'en fait, on a déjà eu une démonstration des possibilités de ce type de robot par Israël, qui s'est officiellement, parce qu'ils l'ont dit, officiellement servi d'un robot chien pour assassiner le principal scientifique nucléaire iranien. Donc en fait, il dit, le problème, c'est qu'on a déjà eu une sorte de démo à taille réelle. Et lui, il dit, en fait, c'est un problème, en fait, que ça ait pu être fait sans que ce soit critiqué ou dit ou relevé.
Ouais, donc en fait, on n'est plus dans la phase test, là. On est clairement à la commercialisation, vu que ça a déjà été utilisé dans un état.
Ouais.
Donc, okay.
Voilà. Car le souci, il est là, en fait. Pour l'heure, personne n'est en capacité de réguler quoi que ce soit, vu qu'aucun texte international n'existe. C'est-à-dire qu'on a ces fameux robots autonomes tueurs, là, au potentiel, ou même tueurs tout court, en fait, ils n'ont pas de texte. C'est pas une arme qui existe. Alors, une Kalachnikov, on sait ce que c'est. Un couteau de combat, on sait ce que c'est, parce que j'ai vérifié, il y a des textes sur les couteaux de combat. Sur
oui, parce que...
Mais le robot, non.
Parce que c'est ce qui est assez dingue quand même, c'est qu'on a légiféré autour de la guerre. C'est-à-dire
il y a des règles de la guerre.
Il y a des règles de la guerre, c'est l'art de la guerre, n'est-ce pas? Donc,
Il y a des règles qui font que vous passez, par exemple, de crime contre l'humanité à guerre normale. Vous voyez, ça peut paraître très froid, mais c'est vrai, ces règles existent, elles sont écrites, elles sont décrites. Donc des discussions, en fait, sont en cours à l'ONU, mais depuis des années, elles sont en fait au point mort. Parce que tout simplement, les pays qui sont de potentiels fabricants de robots, dont la France. Alors il y a la Corée du Sud, la France, la Russie, Israël, vous avez aussi la Chine et vous avez les États-Unis. Et en fait tous ces pays, en fait, à chaque fois qu'il y a une petite avancée, ils ont une bonne raison de pas revenir autour de la table. Vous voyez, c'est un peu voilà. Et alors je vous rappelle que dans le plan France annoncé par un certain Emmanuel Macron pour les 2030, la robotique fait partie des choses dans lesquelles on va mettre plein d'argent. Voilà.
Quel hasard.
Et donc, ce qui inquiète les spécialistes de ces questions, c'est qu'aucun texte ne réglemente jusqu'où peut aller ou non l'autonomie des robots. Parce qu'encore une fois, la vraie question, c'est peuvent-ils tirer de façon autonome? Parce que qu'ils se déplacent de façon autonome, bon, à la limite, c'est déjà un problème, mais est-ce qu'ils vont pouvoir tirer de façon autonome? Pour Michel Horowitz, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Pennsylvanie, et expert en système d'armes autonomes, justement, c'est son domaine, Pour lui, il ne faut pas se leurrer, rien de nouveau n'arrivera vu que ce genre de système existe en fait déjà. Via notamment les drones autonomes qui volent et qui sont armés. Alors je vous rappelle que ces drones volent, ils volent automatiquement et le tir, lui, est déclenché par un humain. Ben, on retrouve exactement la même chose qu'avec ce robot. Et en fait, ils n'ont pas été interdits ni même condamnés par l'ONU. Hein. Donc lui, il affirme, étant donné que le système est contrôlé par des humains et que d'autres pays ont développé des systèmes terrestres robotiques armés et téléguidés, je ne suis pas sûr que ce système soulève de nouvelles questions éthiques au-delà de celles soulevées par tout système téléguidé, finalement, que ce soit dans les airs ou au sol. Voilà. Mais encore une fois, il le redit, ça c'est valable que si la mise à feu reste aux mains des humains. Mmh. Voilà. Alors c'est le premier pas en fait, hein, parce que l'article lui rappelle quelque chose d'intéressant. La décision d'armer un robot chien place Ghost, en fait la Ghost Robotics, devant son concurrent Boston Dynamics en matière d'armement. Qui en fait, Boston Dynamics avait surpris tout le monde avec ses démonstrations techniques, vous savez, les fameux robots qui font des sauts périlleux, mais qui s'est publiquement engagé à ne pas armer ses conceptions. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit non, ce qu'on est en train de fabriquer, c'est trop dangereux, donc on ne les armera jamais. Voilà, c'est un moyen facile finalement pour la société de se placer, la fameuse société Ghost, de se placer en tête d'un domaine toujours très sollicité, celui finalement des technologies d'armement. Et vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une société qui a décidé, qui a dit non, en fait, on se rend compte que ce qu'on a fait. Alors, c'est allé loin, hein, parce qu'il y avait des artistes qui avaient armé les chiens de Boston Dynamics avec des fusils de paintball, et ils ont porté plainte en disant non, c'est pas fait pour ça, en fait. Ces chiens robots, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour être armés. Parce que vraiment, je pense qu'ils se sont rendus compte de la boîte de Pandore qu'ils avaient ouvert eux-mêmes. Mmh. Je dis ça assez. J'étais surpris d'ailleurs, je suis allé vérifier, effectivement, ils ont publiquement fait des déclarations très fermes. Et Ghost Dynamics va même plus loin, hein, donc la société qui a fait ce chien robot armé. Pour eux, il est fort probable que la mise en place d'une intelligence artificielle capable de choisir sur qui tirer émerge très rapidement. Donc leur idée, c'est d'automatiser le tir afin, et ça je les cite, de dédouaner l'humain de prendre une décision et la rendre plus efficiente.
Bah ouais.
Voilà. Alors,
c'est formidable. Quelle avancée, vraiment, c'est génial.
Alors, déjà, quand un humain tient une arme, ça fait flipper. Alors, voilà. Alors, d'abord, je tiens à rappeler qu'une intelligence artificielle, ça n'est jamais que le reflet de l'humain qui va la programmer. Hein, donc, c'est pas un truc magique. Alors, pourtant, il y a plusieurs spécialistes, hein, de la reconnaissance faciale, notamment, et la reconnaissance de situation. C'est les fameux trucs que vend certains Estrosi en France, qui disent ça va marcher partout, ou Laurent Wauquiez, qui explique en fait, tout ce qui a été développé jusqu'à aujourd'hui n'a de fiabilité qu'à 60, voire 70%. Ça signifie donc que le taux d'erreur en fait est de 30%, parce qu'il faut le prendre à l'envers pour se rendre compte. Voilà. Mais là, on parle quand même d'un chien qui va tirer potentiellement, avec un taux d'erreur potentiel de 30%. Tout va bien. Mmh. Alors, il y a des spécialistes qui disent, par exemple, si on lâchait ce chien robot armé au milieu d'une ville, deux enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens ou aux policiers et aux voleurs, et qui vont faire des bruits de balles en mimant ou alors en ayant un pistolet en plastique, comment va réagir le robot? Est-ce qu'il va le voir comme un ennemi et tirer dessus? Mais c'est ce genre de questions et on en est là, en fait, dans ce questionnement-là. Alors, il y a des hackers aussi, des spécialistes de la sécurité informatique, qui tire aussi la sonnette d'alarme. Rendre totalement autonome un robot, c'est le rendre totalement piratable, en fait, c'est ce qu'ils disent. Et donc, retournable contre ceux qui le mettent sur le terrain de guerre ou de maintien de l'ordre, hein, d'ailleurs, hein, comme ils le soulignent. Et c'est pour eux quelque chose de très inquiétant. Alors, ça, c'est plutôt pour les spécialistes de la sécurité informatique, parce que les hackers, eux, ils disent, en fait, c'est peut-être même une bonne nouvelle, finalement, parce que des robots militaires seront donc potentiellement stoppables, soit par le piratage, soit par des armes à créer comme des brouilleurs ou des surchargeurs électriques. Voilà. Donc pour eux, ils disent oui, finalement, il faut voir ça comme une faille qu'il faudra savoir exploiter aussi. Mais soyons clairs, la mise en vente de ce chien robot armé est une terrible nouvelle, hein, et qui ne doit pas nous laisser indifférents, car c'est un pas de plus vers une forme de violence, parce que clairement derrière il y a de la violence, qui peut s'avérer finalement sans limite. Parce qu'imaginons un robot qui devient fou dans une ville et qui se met à tirer. Voilà, ça peut être un carnage absolu. Alors je vais laisser en partie la conclusion à Toby Walsh, en partie je crois qu'on prend la parole après quand même. Alors Toby Walsh il dit, ce robot ressemble à celui d'un épisode de la série Black Mirror. Ce n'est pas surprenant. Il nous emmène dans un monde dystopique que l'on retrouve dans cette série. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas obligés de finir dans Black Mirror, c'est des choix politiques. Des discussions sont en cours pour réglementer le déploiement de ces armes. Nous devrions exhorter nos dirigeants politiques à reprendre ces discussions de toute urgence. Alors c'est là, moi je vais ajouter quelque chose. En fait, on ne doit surtout pas tout attendre des dirigeants politiques. On doit aussi exprimer notre positionnement dessus. Et puis on doit aussi commencer à s'armer intellectuellement et potentiellement du coup physiquement contre ces machines qui sont des futures machines d'asservissement extrêmement violentes. Et il ne faut pas prendre ça à la légère, en se disant, on a 20 ans devant nous, parce que ces robots, ils vont être vendus. Voilà. Et je finis la parenthèse en me disant que je suis allé vérifier sur le site des JO 2024. Et figurez-vous que dans les trucs pour la sécurité, apparaît la robotisation et l'automatisation de la reconnaissance d'ennemis potentiels. Voilà. On est typiquement dans ce truc-là.
Mais bien sûr. Il faudra juste se rappeler que pour l'instant, on sait que contre la reconnaissance faciale, il y a des maquillages qui existent. Il y a le laser aussi qui fonctionne très bien. C'est ce qu'on pouvait voir à Hong Kong quand la Chine a repris ou a déployé son arsenal militaire. Donc ça, c'est des bases vraiment des bases.
Maintenant, et puis après,
c'est à nous de développer, je pense, collectivement et de partager.
Du hacking, par exemple.
C'est exactement
les codes
sources, des choses comme ça. C'est exactement ça, en fait. Il va vraiment falloir, nous aussi, finalement, s'armer intellectuellement, etc., pour arriver à contrer ces trucs-là, parce que là, on rentre dans quelque chose. Enfin, déjà, tu te dis, la guerre, c'est déjà bien dégueulasse, et plein de civils crèvent déjà dans des... Comment on appelle ça, nouveau c'est des morts minces. Des dommages collatéraux. Bah là, je me dis, ça risque d'être encore pire, quoi.
Alors, je vous rappelle, hein, il n'y a pas très longtemps, juste avant que les Américains quittent l'Afghanistan, ils ont utilisé un drone automatisé qui, soi-disant, avait repéré une voiture qui contenait, d'après ce drone et d'après l'intelligence artificielle, elle contenait des armes et elle allait se faire exploser. Et en fait, cette voiture contenait des bidons d'eau. Et elle a été dézinguée en plein cœur de la capitale afghane. Il y a eu des morts, il y a eu des enfants qui ont été tués notamment. Et les Américains ont mis 15 jours à dire, en fait, on s'est planté. Sauf que le problème, c'est qu'on est dans ça. C'est-à-dire qu'on est dans une intelligence artificielle qui leur a dit, ça c'est une voiture piégée. Et en fait, c'était de la flotte. Et à un moment donné, c'est ce problématique-là. C'est-à-dire que c'est pas fiable déjà. Et on peut pas accepter l'idée qu'on se dédouane en disant « Ah bah pardon, c'est un bug dans le programme ». Parce que c'est un petit peu ce qu'ils nous ont dit, hein, les Américains, en disant « Bah on est désolé, en fait, il y avait un petit bug dans le programme ». Oui, enfin, sauf qu'il y a des morts à la clé, quoi.
Bah oui, mais en même temps, c'est l'eau de la guerre, ils arrivent toujours à excuser les dommages collatéraux qu'ils appellent.
Mais en fait, il faut vraiment être vigilant sur tous ces outils-là. Et encore une fois, le fait qu'aujourd'hui ça aille vers la police, parce que de plus en plus on parle de les mettre dans les villes pour aider les policiers, là ça commence à... Alors déjà la guerre c'est dégueulasse. Le maintien de l'ordre par des unités robotisées, là ça commence à vraiment atteindre des degrés. Ils ont déjà lâché des chiens robots en Corée du Sud pour engueuler les gens dans les parcs quand ils marchaient quand ils n'avaient pas la distanciation sociale, des choses comme ça. En fait, on commence comme ça, mais c'est pas anodin quand on démarre, quand on commence à dire tiens, les gens vont s'habituer à avoir un robot qui leur parle, vous voyez, et c'est pas anodin. Donc voilà, donc soyons vigilants et armons-nous intellectuellement aussi. Voilà, un peu de musique.
Drunk. Italiano. Oh mamma, mamma mia, bet your love on me. I'm on my knees and I can wait to drink your brain. I'll keep the secret if you let me get a taste. Tell me your limit and we'll cross the line again. Oh mamma, mamma mia. You ask, cause my favorite music's your on. Give me a command and I'll do what you ask, cause my favorite music's your on. Give me a command and I'll do what you ask, cause my favorite music's your on. Give me a command and I'll do what you ask, cause I love when you sing out loud. Oh mamma, mamma mia.
Et vous êtes toujours dans la causerie au 102.2 sur radiocalu.org ou ailleurs. Voilà. bon, je ne sais pas où, mais vous pouvez être ailleurs. Et donc, du coup, c'était Maneskin avec Mamma Mia, comme ils le disent plein de fois dans le titre. Et moi, je les trouve trop beaux tous et toutes. Voilà. Alors, voilà, je les aime. Okay. C'est tout. Donc, c'est pour ça que vous aurez souvent du Maneskin.
Ah oui, c'est. Et après, c'est pas lui qui me faisait des remarques sur Stupéflip, Altarba, tout ça.
Ouais, bah écoute, moi aussi, j'ai le droit d'avoir des trucs.
Ah, mais je n'ai jamais dit l'inverse. Hein.
Et donc, Jean-Yves, toi, tu voulais nous parler agro-business ce soir et un petit peu l'arrière-cour.
Ouais, ou pas d'ailleurs. Bah ouais, enfin, il y a déjà deux semaines, je vous parlais de la BD Algue Verte, l'histoire interdite d'Inès Leroux et Paul. Je me suis trompé, pardon, sur l'orthographe. Paul Van Hove aux éditions de la Revue Dessinée et Delcourt. Alors, dans cette BD, hein, est abordée la vie des paysans, la mainmise aussi des coopératives et autres gros bonnets de l'industrie, enfin, de l'agro-industrie. Depuis, en fait, bah, je suis tombé sur quelques articles, en fait, qui ajoutent des exemples, des arguments, finalement, qui, selon moi, appuient, en fait, sur cette nécessité de changer radicalement de société et de modèle, en fait, bah de société et tout ce qui va avec, hein, parce que finalement l'agriculture, etc., ça, c'est aussi en lien avec le reste de la société, quoi. Alors déjà en 2013, dans la causerie numéro 7, ouais, on vous présentait un doc sur la paysannerie, mais pas que, et qui s'appelait Herbe. C'était de Mathieu Levin et Olivier Porte, et je vous invite vraiment à le regarder si vous l'avez pas encore vu depuis 2013. Il serait temps. Enfin bref, donc évidemment, hein, la réflexion autour de ces questions, elle date pas de la causerie et pas plus d'il y a 15 jours que d'il y a 8 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, pourquoi tu souris ?
Il se voit pas vieillir, hein, il a du mal à être 8 ans.
Bref, j'avais donc envie de partager un petit peu avec vous ces quelques articles que je vous invite vraiment à aller lire, en fait, parce que ça nourrit quand même cette réflexion. Donc, le premier, en fait, ça vient du média Basta, et c'est un témoignage, en fait, d'un éleveur laitier, Christophe Thomas, qui vit en Côte d'Armor. Et alors lui, en fait, bah, il nous raconte, hein, ses 680€ de salaire par mois. Il nous raconte les investissements et donc les crédits, que ce soit pour un bâtiment, pour un robot pour traire ou même un deuxième robot à traire. Et comme il le dit, en fait, bah, 150 000€, 10 ans d'emprunt, 10 000€ d'entretien chaque année. C'est sûr, cela fait cher. Le droit de se lever un peu plus tard le dimanche matin. Il nous dit aussi pourquoi il a augmenté la taille de son troupeau, toujours, hein, dans le but d'avoir de meilleurs revenus, ou encore comment lui, avec ses 650 000 litres de lait par an, ne s'en sort pas forcément mieux que ses parents qui produisaient 2,5 fois moins de lait, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, bah tiens, il doit vivre deux fois et demi plus.
Mais mieux. Non, parce qu'entre-temps, le prix du lait a quand même été divisé, je crois, si on met à taux constant, c'est-à-dire, ouais, en tenant compte de l'évolution du coût de la vie, trois fois moins, c'est-à-dire on achète trois fois moins cher le lait quasiment aujourd'hui qu'il y a 40 ans, quoi.
Et il nous raconte aussi, hein, comment, bah, les coopératives sont de vrais barons, vraies baronnes, dont certaines demandent 15 000€ de droit d'entrée, hein, par an. Et si elles achètent le lait, alors là, justement, par rapport au tarot, bah, c'est 30 centimes le litre, qui est un prix, en fait, inchangé depuis 30 ans. Et comme le dit, en fait, Christophe Thomas, en fait, pour s'en sortir, il faudrait que j'ai 100 euros de plus pour 1000 litres de lait, ce qui veut dire 10 centimes par litre. Hein, on passerait donc de 30 à 40. Et ils disent qu'ils reviendraient à vendre le yaourt 1 centime de plus, en nous assurant bien sûr de toucher la plus-value. Malheureusement, ce n'est pas au programme. Et donc, hein, si ces coopératives achètent le lait, elles fournissent aussi les aliments, les pesticides, les engrais, les semences. Et il nous décrit aussi le problème qu'il a eu en 2018 avec la coopérative Triskalia. Tiens, une coopérative qu'on retrouve dans la BD dont je vous ai parlé il y a 15 jours. Vous voyez le lien ? Et alors elle a pris...
Une coopérative bretonne.
Ouais, oui, évidemment. Elle la prévisionne en fait tous les mois, hein, d'un mélange de soja et de colza, sauf que bah, cette fois-ci, en 2018, donc, il y a un problème. Contacté par l'agriculteur, forcément Triskalia nie toute responsabilité. C'est logique, avant bah, de reconnaître qu'il y a un problème, mais en délivrant les informations au compte-gouttes, voire en les masquant. Et c'est à ce moment-là en fait, que Christophe bascule de la résignation à la colère. En fait. Et il dit, ils m'ont pris pour un imbécile, ils m'ont traîné plus bas que terre. À chaque fois, ils m'envoyaient un nouveau chef. Tous étaient très hautains. Il y avait même un qui demandait à ma femme si elle savait écrire. En fait. Ouais.
Ah, le mépris total de...
C'est ça qui est ouf, en fait. Okay, tu dis, c'est une coopérative agricole, en fait, et ouais. t'as un pur mépris de classe et social, en fait. C'est-à-dire que des gens en ville, souvent, hein, toi, ami auditeur, auditrice de la grande ville, qui aiment bien se foutre de la gueule des bouseux qui leur font à bouffer, bah là, en fait, c'est des gens qui sont censés travailler pour les paysans qui se foutent de la gueule des paysans.
De toute façon, je crois que la paysannerie, c'est le truc le plus méprisé, ce qui est assez odieux. Hein, parce que, ouais, et d'ailleurs, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, 30 centimes qui n'a pas bougé en 30 ans, mais c'est juste impensable. C'est-à-dire que ça veut dire que ça n'a pas suivi du tout l'inflation. Non. L'inflation qui a dû prendre mais facilement 50-60% en 30 ans et ça n'a rien suivi quoi.
C'est
un truc de dingue et on continue en fait à dire à ces gens bah, c'est le prix que nous on prend. Je trouve ça juste fou quoi.
C'est exactement ça. Et alors il s'avérera hein, que Triskalia a livré des aliments pour lapins qui ne sont pas du tout adaptés en fait à l'estomac des ruminants. Une petite différence. Et en fait,
les lapins ne sont pas des ruminants, mais quelle surprise.
Et les analyses, en fait, hein, payées évidemment par Christophe Thomas, révèlent en fait la présence d'antibiotiques, dont plusieurs absolument déconseillés pour les bovins, et deux interdits chez les animaux dont le lait est destiné à être consommé. Donc tout va bien. Hein.
Sympa.
Ouais, c'est super sympa. Donc je vais pas ici hein, vous lire tout l'article, mais je vous pousse vraiment à aller le lire pour saisir en fait, comme le dit l'éleveur, comment les paysans, les éleveurs sont pris à la gorge et continuer de s'interroger sur les modes de production. C'est ce qu'il dit lui-même. La constitution de troupeaux et la commercialisation des troupeaux. Des produits, pardon. Alors le deuxième article, en fait, hein, toujours sur Basta, et il est dans la suite logique pour moi de ce premier article, en fait. Son titre, c'est « Comment les coopératives agricoles reproduisent la loi de la jungle néolibérale ?» Et alors là, c'est assez intéressant aussi, parce que l'article, il revient sur l'historique des coopératives agricoles. Je vais vraiment vous citer des extraits de l'article. Et c'est en 1888, en Charente-Maritime, en fait, qu'est née la première coopérative agricole française. Les éleveurs de la commune de Chaillet sont confrontés déjà à l'époque à une surproduction de lait et ils décident en fait de mutualiser leurs forces et leurs moyens. Face à des acheteurs de plus en plus concentrés qui imposent leurs prix, les coopératives se développent d'abord dans le secteur laitier, viticole ensuite, puis céréalier dans les années 30, 1930.
Une des plus connues, c'est Candia. Ouais. Qui est une coopérative.
C'est vrai. C'est vrai.
Non, mais c'était pour donner que les gens se rendent compte qu'on en connaît encore aujourd'hui.
Sauf que depuis, les choses ont bien changé. Hein. Je cite encore l'article. Hein. Peu à peu, les coopératives agricoles vont pénétrer les marchés tenus par les industriels avec les mêmes règles et méthodes. Elles ne vont plus être les outils de défense collective des paysans d'un territoire donné, mais l'outil de conquête économique des paysans lancé dans la modernisation, en fait.
Ah, tu dis comme Lactalis, tout ça,
ça.
Qui voûte le couteau sous la gorge des gens.
C'est ça.
Ah ouais.
Et ce qui forcément amène à des concentrations de pouvoir, hein, comme le rapportent des témoins. Je cite, en 20 ans, 1600 coopératives ont fusionné successivement dans un processus de concentration dont l'aboutissement est que moins de 3% de ces structures regroupées accaparent désormais plus de 85% de la production agricole. Ce qui est effectivement, ça s'appelle une grosse prise de pouvoir.
C'est une concentration capitalistique habituelle. C'est-à-dire que c'est l'idée que d'un seul coup, en fait, au lieu d'avoir des choses en local et avec un rapport local, c'est-à-dire la coopérative locale qui fait le yaourt local, on a une concentration très centralisée, parce que le capitalisme, en fait, est très centralisateur finalement, malgré ce qui laisse dire que c'est pas vrai, mais avec Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ça s'est produit là, mais ça s'est produit dans la banque, ça s'est produit dans plein d'endroits, parce que juste comme ça, les gens qui connaissent le Crédit Mutuel qui nous dit on est une banque pas comme les autres, parce qu'ils se disent c'est une banque coopérative. Mais en réalité, le Crédit Mutuel, c'est la fusion de centaines et centaines de banques coopératives qui existaient dans plein de villes et qui s'est devenu un gros mastodonte qui s'appelle Crédit Mutuel. Là, on a un gros mastodonte qui s'appelle Lactalis, un autre gros mastodonte, et c'est assez dégueulasse parce que finalement, on perd l'idée même qui est la première, qui est l'idée coopérative, qui est donc l'idée d'entraide, parce que c'est ça qu'il y a derrière la notion de coopérative, et pour être dévoyé au service d'un capitalisme triomphant et violent.
Le capitalisme, c'est sa force, c'est qu'il arrive à absolument tout ingurgiter et à tout...
À tout vomir.
À tout vomir, effectivement, c'est dégueulasse. Et... comme le rapporte en fait l'éleveur du premier article, et comme on le voit aussi dans la BD Algue Verte, l'histoire interdite, les coopératives sont des outils de pouvoir détenus par des vrais businessmen. Je cite encore une fois l'article, si une coopérative appartient normalement, juridiquement, à ses adhérents, la pratique se révèle différente. Les agriculteurs n'ont pas leur mot à dire sur les prix auxquels leurs productions sont achetées. Et il y en a un qui dit « Je ne sais même pas combien je vais être payé le mois prochain, enfin le mois suivant. » Un paysan qui est producteur de lait dans l'ouest de la France. Et il dit « C'est toujours eux qui décident. Il n'y a jamais aucune discussion sur la gouvernance ou les orientations stratégiques. »
Et le tout avec un droit d'entrée.
Mais oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, on fait payer à l'agriculteur un droit d'entrée.
Pour qu'on t'impose quelque chose.
Qui est censé être en fait un droit d'entrée dans une coopérative. Normalement, c'est le prix de votre voix. C'est-à-dire, c'est le fait que vous entrez, vous avez une voix, vous avez voix au chapitre par le fait de payer un droit d'entrée. Donc là, on leur fait payer un droit d'entrée et derrière, on leur demande jamais leur avis.
C'est assez formidable, moi, je trouve. Pire, comme le rapporte Serge Lequeo de la Fédération syndicale Sud Solidaire qui soutient les victimes de pesticides depuis de nombreuses années, il dit en fait ceux qui essaient d'en savoir un peu plus sont ostracisés. Il le dit, quand il y a eu des intoxications aux pesticides de plusieurs salariés de Triskalia, certains coopérateurs avaient posé des questions en AG. Ils s'étaient fait bousculer violemment. Les dirigeants sont super rodés pour couper la parole à ceux qui essaient de la prendre ou pour leur manifester leur mépris. Genre, Maurice, au lieu de poser des questions, tu ferais mieux de t'occuper de ta ferme.
Parce que là, du coup, on le tutoie en plus.
Bien évidemment.
Notez le truc qui se produit d'un coup.
Il y a du mépris de classe aussi dans tout ça, n'oubliez pas. Ou encore, tu viendras boire un coup tout à l'heure à l'apéro et je t'expliquerai ce que tu n'as pas compris. Voilà ce qu'entendent en fait les coopérateurs un peu curieux. Et il dit en fait, on t'abaisse. T'as la honte, alors tu dis plus rien en fait, tu fermes juste ta gueule en fait.
On passe d'un système d'entraide coopérative à un système purement mafieux avec de la pression, parce que ça porte un nom en fait.
C'est vraiment
un système mafieux quand on commence à mettre la pression sur les gens ou quand on commence à les mettre mal à l'aise.
C'est de l'humiliation.
C'est de l'humiliation et en fait ceux qui utilisent beaucoup l'humiliation, c'est les systèmes mafieux quand même.
Autoritaire.
Autoritaire en tout cas, ouais. Mais là il y a vraiment la notion d'un pouvoir centralisé.
Donc vous l'aurez compris, c'est une plongée en fait dans le monde impitoyable des coopératives, qui d'outils au service des paysans est passé à un outil de pouvoir et d'enrichissement de quelques-uns en fait. Et le dernier article, il s'appelle « Les agriculteurs ne gagnent pas assez pour vivre », que je ne vais pas vous détailler, sinon je vais encore tenir le crachoir pendant une heure et c'est pas le but. En fait, cet article, c'est le résumé d'une enquête de l'INSEE sur le monde agricole, parue sur le site Reporter cette fois-ci. Et alors, en fait, c'est un regard sur le niveau de vie du milieu agricole, qui est en fait très variable en fait selon le domaine d'activité, si c'est de la culture, de l'élevage, du maraîchage, de la viticulture, etc. Et même selon la géographie en fait. C'est hyper intéressant quand même quoi. Et en fait, c'est une manière d'interroger ce monde qui nous nourrit, nous abreuve et qui ne permet pas en fait à beaucoup de personnes de vivre correctement en fait. C'est quand même ça le truc, et qui vivent pas du tout à la hauteur du temps qu'il et elle y passent, en fait, parce que, producteur de lait, ben ouais, en fait, c'est 7 jours sur 7, et c'est...
Oui, c'est ça. C'est 24 heures sur 24, 7 jours
c'est
sur 7.
C'est ça, en fait.
Enfin, c'est bien que les paysans, c'est pas un métier que vous pouvez arrêter à 17 heures et vous revenez le lendemain. Bah, donc, ça pourrait l'être.
Ça si pourrait l'être, c'est fait, ça.
Sauf qu'il n'y a pas les moyens de se payer. Déjà, eux, ils ont du coup plus les moyens d'embaucher. Ce qui fait qu'au final, les fermes qui, à une époque, avaient des fermiers, plus des commis, plus des... Où il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes qui vivaient sur des fermes, aujourd'hui, elles sont tenues par 2-3 personnes. Mmh. Et donc, du coup, c'est autant d'ailleurs d'emplois qui ont disparu, au passage. Et c'est aussi la désertification des campagnes. Et, c'est aussi surtout que c'est des gens qui n'ont plus les moyens de vivre. Donc, pas tous, parce qu'il y en a qui sont très riches. Ça existe aussi, et il ne faut pas se mentir. Les gens qui sont à la tête de la FNSEA, par exemple,
qu'ils vivent bien.
C'est pas des pauvres. Mais il y a une majorité, en fait, de paysans aujourd'hui, agriculteurs, comme on dit maintenant, qui survivent plus qu'ils ne vivent. Et c'est pour ça que le taux de suicide est si élevé. Et c'est pour ça que dans les campagnes, il y a un malaise et un mal-être qui est palpable, quoi.
C'est ça. Bref, je vais pas aller plus loin. J'espère juste que je vous aurai donné envie, en tout cas, de lire ces articles. On vous mettra évidemment les liens sur le site, enfin sur le blog de la Causerie, et que ça nourrisse en fait la réflexion autour de notre société, de la production alimentaire, paysanne, etc. Parce que même si on veut changer de société, bah, il va bien falloir continuer de bouffer, etc., etc. Donc c'est aussi plein de questions autour de tout ça, en fait. Et s'il y a aussi, enfin pour moi, en fait, des interrogations à avoir sur les structures, sur les outils, comment un moyen, par exemple les coopératives, né au début comme un contre-pouvoir pour aider les paysans, et qui sont aujourd'hui des outils d'écrasement du monde agricole et de profit, par contre, pour certains, en fait. Et peut-être aussi, en fait, que ces outils doivent être perfectionnés, parce que juste un nom, une structure, ça suffit pas à soi, à elle-même, en fait. Coopérative, syndicat, auto-organisation, en fait, ce ne sont rien si des outils ne sont pas mis en place, par exemple, selon moi, comme le contrôle des mandats, le mandat impératif, la démocratie directe. En fait, faire ce que les paysans demandent et non pas imposer quelque chose aux paysans, parce que là on marche sur la tête, en fait c'est la coopérative qui fixe le prix. Non, en fait, si ça a un coût, c'est aux paysans de te donner le coût, en fait, et après tu fais en sorte que, donc c'est vraiment ça, en fait, partir de la base, en fait. Et ce que je me disais, c'est peut-être même mettre le paysan finalement en lien avec celles et ceux qui ont des besoins. Autrement dit, nous, en fait.
Bah oui.
C'est ça, en fait. C'est lié, en fait, ceux et celles qui ont ces besoins avec celui qui produit. Et puis, c'est une réorganisation complète. Clara, te moque pas. Bref, qu'on parte du bas, des besoins pour s'organiser, et non pas que les profits soient le seul horizon, finalement, et que tout le reste en découle. Parce que, en fait, on se plante complètement de fonctionnement, quoi. Et il y a aussi autre chose que j'ai pas abordé, c'est notre place, en fait. Enfin, même si on vient un petit peu d'y toucher là, c'est à nous, en fait, qui ne sommes ni paysans, paysannes, ni éleveurs, éleveuses, et pas dans une coopérative, en fait.
Je fais pas de vin non plus, malheureusement. Mais...
Ou comment, en fait, selon moi, en fait, l'affaiblissement des luttes sociales pour une meilleure répartition des richesses, par exemple, vous voyez qu'on est tous un peu de quoi vivre, en fait, amène tout vers un soi-disant meilleur pouvoir d'achat, ou comment, finalement, tout est tiré vers le bas, parce qu'on prend pas plus sur la part de bénéfices, etc., en fait. Et pour cela, en fait, la production, et pour que cela, la production, par exemple, nous soit accessible, eh ben, on cherche quoi? Eh ben, on cherche à faire moins cher, plutôt que de chercher à prendre plus de thunes sur les richesses qu'on produit, que nous, on produit, en fait, et qui font notre salaire, notre pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Pour que justement, en fait, tout ne soit pas réduit au moins cher. Parce que moins cher, en fait, ça se transforme forcément par paysans exploités, tout comme salariés exploités, précarisés, en fait. Parce que ce soit pour le paysan poussé à produire moins cher ou le salarié exploité, précarisé, pour coûter moins cher, selon le patronat et le VRP qui s'appelle gouvernement, et ben on se tue, en fait, à la tâche, pendant que les gros bonnets, comme les coopératives, comme le patronat, et ben ils s'en foutent plein les poches, en fait, avec la validation du monde politique, en fait. Alors forcément, C'est après là où ça se transforme, c'est qu'on se désigne, on nous désigne tous comme des ennemis. Hein, c'est-à-dire que.
Je crois pas qu'on le soit.
On désignera le paysan pollueur. Il y en a, je suis pas en train de dire le contraire, et je pense même qu'il y a des paysans qui s'en rendent bien compte.
J'aimerais pouvoir faire autrement.
Oui, je cherche pas.
Ouais,
c'est juste, je cherche pas à nier le réel. Hein. Mais comme on nous désignera aussi le chômeur, le venu d'ailleurs, comme étant notre ennemi, hein, parce que pour que en fait on se mette sur la gueule entre nous, en fait, et qu'on ne morde jamais la main en fait de celles et ceux qui tirent profit de ce monde de merde. Parce que là, on le voit, on l'a vu dans les algues vertes, la BD, comme là sur les différents extraits d'articles que je vous donne, il y en a qui tirent profit de ces situations-là de ce monde-là. Et il suffit de regarder le CAC 40, on se rendra bien compte aussi qu'il y en a d'autres qui en tirent vraiment plein de profit, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on se plante pas d'ennemis, en fait, parce que, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi, les ennemis, hein, c'est bien ce monde de merde, cette production industrielle, la propriété privée, tiens, qui est un des piliers du monde capitaliste, la structure sociale hiérarchisée, et tant de trop choses qu'il faudra détruire, n'est-ce pas? Et mais, alors, si détruire, c'est une chose, il y a une étape, enfin, et c'est une étape certainement par laquelle on devra passer, parce que je pense que rarement les choses s'effondrent d'elles-mêmes et qu'on attend que ça tombe et que ça reconstruit comme ça. Mais en fait, il est aussi évidemment nécessaire en fait de savoir ce qu'on a envie de construire à la place, en fait.
C'est ça.
Comme société, de tout point de vue, en fait. Organisation sociale, production alimentaire, place de chacun et chacune dans cette société future, etc. Et la paysannerie, la production alimentaire, vous l'appelez comme vous voulez, et il faut aussi y penser, en fait, quoi.
Mais donc, il faut surtout l'intégrer à ce projet de société.
C'est exactement ça.
Il n'est pas extérieur, en fait.
Non, c'est ça. C'est une partie obligatoire de ça, en fait. Enfin, on est 7 milliards d'êtres humains. Il faut qu'on arrive à faire à bouffer pour tout le monde et que personne ne soit lésé dans l'affaire. Ouais. On ne peut pas se dire, c'est cool, je bouffe moins cher. Qui se fait finalement au prix du paysan pas payé, en fait, ou très peu payé. Donc voilà, donc c'est juste quelques pistes ou quelques articles qui peut-être continueront à nourrir cette réflexion justement par des exemples du réel, en fait. Parce que c'est aussi ça qu'il faut faire, c'est il faut pas juste se branler le cerveau sur de la théorisation, etc. Il faut partir du réel pour voir en fait quelles sont les possibilités, quoi. Donc voilà. C'était juste un petit partage de réflexion.
Moi, je peux donner un petit exemple parce qu'il est frappant et je trouve qu'il est parlant. En ce moment, il y a des pubs à la télé, vous savez, ou à la radio, ou au cinéma, où on vous parle de boîtes de conserve à moins d'un euro où il y a des petits pois et des carottes dedans. Mmh. Et en fait, 94 centimes, je peux donner le prix qui est donné dans la pub. Il faut savoir que la boîte, elle vaut à elle toute seule 13 centimes d'euros, qui a à peu près 20 centimes de coût induit. Donc, vous êtes à 33 centimes que vous ajoutez à ça le transport et la vente dans le magasin, et vous voyez ce qui reste au paysan.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ah ben oui, c'est tout le truc, en fait. C'est,
sur un kilo.
C'est qu'on se trompe, en fait. C'est qu'il a toujours cherché à vouloir des choses moins chères. Fab est juste en train de mourir, ne vous inquiétez pas.
Désolé, je tousse, je me suis étouffé.
Donc en fait, c'est ça, c'est toujours ce truc-là. C'est qu'on se trompe, en fait, à toujours vouloir du pouvoir d'achat ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est de la thune qu'il faut aller chercher, et on le sait bien qu'il y a de l'argent. Mmh. Donc c'est juste que...
Si les salaires étaient décents, on pourrait acheter...
Mais oui, mais sauf que les salaires, ils viennent d'où? Ils viennent de toutes ces richesses-là.
On voit bien quand tu que c'était tout lié, c'est effectivement tout lié. Moi, je trouve que les gens qui vous font des grands discours en disant on va transformer l'agriculture, on va rendre les paysans plus riches, mais en maintenant les salaires plus bas,
oui,
ça marche pas. Si vous, et en fait, tout est lié. Et en réalité, alors moi, je suis pour l'explosion du système salarial.
Oui,
autres,
oui, moi
mais
aussi.
Dans mais tous les cas, là, en ce moment, tant qu'on tire les salaires vers le bas, on tire la paysannerie vers le bas, et ainsi de suite.
C'est
en
ça.
Fait, ce cercle-là, il fait que de toute manière, si on ne s'unit pas tous ensemble, c'est-à-dire que si on a, voilà, comme tu le disais, en fait, on n'y arrivera pas parce que c'est vraiment un tous ensemble. Il faut pas rêver, ça va pas être juste un côté, juste l'autre. Alors après, on sait, il y a des trucs corporatistes, on aime bien faire ça. C'est-à-dire, par exemple, on a une candidate qui va vous dire, on va doubler le salaire des profs, un autre qui va vous dire, je vais doubler le salaire des ouvriers.
C'est encore une manière de diviser.
En réalité, le problème, c'est la masse globale et comment, en fait, on peut tous bouffer correctement à notre faim et correctement. Et une fois qu'on a résolu ce problème-là, en fait, on a résolu le problème de la paysannerie. C'est pas plus compliqué. Ça,
ah
non,
mais
fait,
oui, hein. Mais il faut arrêter de sectionner toutes les luttes, en fait, parce qu'on s'y perd et que ça sert surtout nos ennemis, les profiteurs et les capitalistes, quoi. Voilà. Bon, on va peut-être passer à la musique alors.
Comment t'as fait ça? Voilà, voilà.
On y go.
du sourire arraché de la veille. Regarde mon avenir dans le fond de la taille, à la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir.
Perdu le sourire arraché de la veille. Regarde mon avenir dans le fond de la taille, à la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir dans le fond de ma tête. Peux pas dormir, la nuit porte conseil. Une route à suivre, j'ai toujours fait le contraire. Y'a pas de réponse et tellement de questions. Combien de temps ça dure? La dépression, c'est MURSA. La récession, les perquisitions, les mandats. La répression au milieu des culs de joints et des tessons. Parce que demain c'est loin quand t'es devant les caissons. Plein pas arraché à ressasser le passé. Ça peut pas bien finir, ça va mal se passer. Après l'orage, il ne restera que des gouttes. Et moi à hurler que ce monde me dégoûte. Et moi à hurler que ce monde me dégoûte. J'suis encore bourré, un soir de déroule. Chaque voiture brûlée qui m'éloigne de mes doutes. Ils veulent pas nous entendre et nous mettre sur écoute. Pas le genou à terre et ce quoi qu'il en coûte. Allez tous en enfer, j'en ai plus rien à foutre. La drogue, le suicide, y'a pas de sujet tabou. Ça va beaucoup trop loin, ils nous ont poussé à bout. On ira droit au mur, on ira jusqu'au bout. On laissera des fissures, on rendra coup pour coup. On ira hurler au milieu des loups. On ira danser au milieu des fous. J'enlèverai ma capuche sous une pluie de coups. Y'aura pas de chute, je vais mourir debout. J'enlèverai ma capuche dans un bruit de sourds. Y'aura pas de chute, on va mourir debout.
En panne, du gasoil pour la fin, j'ai pas trop les impasses. J'ai la poisse qui colle et le foie qui cogne. Y'a les rats qui lorment, attendre que le bateau coule. J'ai mis mon corps à vendre et je passe ma dalle à l'alcool. Je regrette le temps d'avant quand j'en avais rien à foutre. J'étais monde, tracé ma route solo. Maintenant les roses sont serrées. Une bande de gars qui mal collé, à se caliner dans la crasse. La gueule avinée, votre enfant passage, l'âme nomade. J'ai lavé des chiottes, passé de la pommade. Genre ma lève-toi, quel que soit le contexte. Normal, cette merde me fait perdre la tête. Je m'étonne, des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Histomiaque à mes heures, lunatique, je m'étonne. Des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Pitbull charmante, hypercute, je prends l'avance. Injonction au bien-être, j'y dans, je me défonce, je suis le rythme. Je kiffe les fossés pleins de ronces, c'est quand ça dépasse sur la route. Je kiffe les fossés pleins de ronces, c'est quand ça dépasse sur la route.
Faire partie des gens cool, mais sous la cagoule c'est pas Will Smith. La défense m'ont dit que dans la cour, je suis dans le coup sous perfus de 8-6. J'ai pas l'attitude, moi j'ai pas leur classe. La confiance en soi, tout un concept. Le rasoir me corrige devant la glace. La dame part, j'esquive, je lui tiens tête. Tout ce qu'on ne pense qu'à s'habiller, moi je ne suis rien sans ma compagnie. À la fin des nuits, j'ai brisé sablier. Tout n'est pas à la carte, c'est pas le campanile. J'ai serré la main, j'étais candide. J'ai mangé des deux tards, j'étais servile. Dis-moi qui prétend connaître leurs soucis. Des amis dérivent, les messieurs suppriment tragique. Trop. Le cœur serré sans la crise d'angoisse. J'ai pas dit je t'aime, j'trouve plus tâche. Me perds, j'm'oublie, j'ai rien compris. J'me suis noyé dans les compromis. J'ai tendance à laisser mener la danse. Du bal des égaux, garde la distance. Car part de l'échec, la solitude, ma délivrance.
Et vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu et on vient de s'écouter Krav Boka en featuring avec la rappeuse Rature et le titre c'était Arraché.
C'était vachement
bien. Ah, j'aime beaucoup. Je suis pas fan de tous leurs titres, mais alors celui-là, je l'ai trouvé très très beau.
Ouais.
La solitude, enfin bref, c'est très joli.
Et du coup, on va passer au brève.
Ouais,
donc on commence par toi, Jean-Yves.
C'est ça. Alors, il y a une réunion publique à la Bourse du Travail, jeudi 21 octobre, en fait, sur la garde à vue à ciel ouvert, qui avait eu lieu le 21 octobre 2010. Et en fait, le collectif du 21 octobre 2010, qu'on avait reçu dans La Causerie, hein, saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Pas plus hier qu'aujourd'hui, nous n'acceptons l'atteinte à la liberté de manifester. Et donc cette réunion, en fait, elle vient aussi expliquer pourquoi ils vont et elles vont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a aussi une intervention d'une personne de la LDH. Je veux juste rappeler, le collectif en fait du 21 octobre est né en fait après une une garde à vue à ciel ouvert. Ouais. Pendant 7 heures, 700 personnes ont été enfermées sur la place Bellecour à Lyon. Et c'était une vraie nasse de dingue. Avec,
j'y étais, c'était surréaliste.
Avec du mépris de dingue des flics, etc. Enfin, c'était vraiment complètement fou. Et c'est quelque chose qui finalement devient assez généralisé, les NAS, parce qu'on les voit aussi sur Paname, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est un de ces outils de contrôle et de maintien de l'ordre,
Dans un pays qui, pourtant, nous dit que la liberté de manifestation est inscrite dans sa constitution.
Ouais, il y a quelques personnes qui ont perdu des yeux depuis.
Voilà, donc on voit bien que, toute la dérive qu'il peut y avoir.
C'est ça, donc c'est bien la Bourse du Travail.
À quelle heure?
Jeudi 21 octobre de 17h30 à 19h30.
Sinon, après samedi 23 octobre, donc il y a une manifestation à Lyon, donc unie contre les violences d'extrême droite. Alors vous savez que Lyon, c'est le laboratoire de l'extrême droite, comme beaucoup de médias le disent, et comme on peut malheureusement le vivre dans la ville depuis des années, avec des agressions, des attaques racistes, des attaques islamophobes, antisémites, des attaques au couteau, des attaques de manifestation. On a aussi eu des attaques LGBTI-phobes. Enfin, je crois qu'à Lyon, on a un petit peu fait tout le panel possible que l'extrême droite peut déployer.
C'est ça.
On a eu des attaques contre la radio, on a eu des attaques contre des locaux, donc voilà, vous voyez, on est bien placé pour savoir que l'extrême droite, ça ne fait pas que parler, ça agit et parfois même ça tue, c'est un vrai problème. Donc du coup, à 14h30, place Bellecour, samedi 23 octobre, à Lyon, il y a une manifestation contre l'extrême droite. Voilà, alors c'est signé par plein de collectifs, je ne vais pas tous vous les lire. Et puis de toute façon, que vous soyez d'un collectif ou pas, si lutter contre l'extrême droite vous tient à cœur, il faut vous mobiliser. Juste, j'en profite pour faire une parenthèse, en Italie, lorsque des locaux syndicaux et associatifs sont attaqués, c'est entre 50 000 et 100 000 personnes qui sont dans les rues de Rome. Voilà, c'est ça, lutter contre l'extrême droite. Donc j'espère que le 23 octobre à Lyon, on sera un peu plus que 300. Voilà.
Oui. L'espoir fait vivre, ce qu'on dit.
Non, mais je le dis parce que je pense que il y a un moment donné, il faut aussi savoir dire les choses et il faut se montrer et pour dire à l'extrême droite, en général, vous n'avez rien à faire dans nos vies. Voilà.
C'est ça. Eh bien, on continue. C'est toujours le samedi 23 octobre. Et là, c'est après la manif, pour se changer les idées, même si ça reste politisé aussi, ce que je vous propose. C'est une soirée du collectif hip-hop féminin qui aura lieu donc samedi 23 octobre à Grande Zéro. Grande Zéro, c'est à Vaux, à côté du Carré de Soie, à Vaux-en-Velin, entre Villeurbanne, Vaux-en-Velin, tout ça. Et voilà, et en fait, il y aura des danseuses, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, des danseuses, des rappeuses, etc., etc. Donc là, c'est vraiment du rap au féminin, avec tout ce qu'englobe la culture hip-hop, et donc justement la danse, tout ça. Donc c'est samedi 23 octobre au Grande Zéro. C'est 60 avenue de Bolène, donc à Vaux-en-Velin, et ça commence, si je me souviens bien, à 19h. Et ça se termine tard. Et c'est à prix libre, c'est à noter. Ouais, c'est à prix libre.
Ça, c'est bien.
Donc voilà.
Ouais, et moi, juste, je fais une petite parenthèse ciné. Si vous avez envie d'aller dans les salles obscures, je vous invite vivement à aller voir le dernier film de Ridley Scott qui s'appelle Le Dernier Duel. Parce que comment parler du Moyen-Âge tout en parlant du 21e siècle et du rapport au viol dans nos sociétés? Et ben voilà, allez-y, vous verrez que ça n'a pas tellement changé depuis 1300 et des brouettes, et c'est peut-être ça le problème. Voilà.
Ok. Okay. Eh bien, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain avec peut-être des invités, c'est à confirmer. Et puis, on va se quitter avec le titre La Gavotte Noire.
Ah, ça bretonne, ça bretonne.
Ça bretonne, évidemment. C'est du groupe Descofar, et donc La Gavotte Noire. Et puis, nous, on vous dit...
Juste, je veux quand même dire ça aux auditrices, auditeurs. L'homme qui vient de vous annoncer la gavotte noire porte une marinière.
Il est dans le thème.
Oui, ma vie, c'est le thème. Bref, on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine à venir, peut-être dans les manifs, dans les soirées, dans les machins. Et puis, rendez-vous dimanche prochain, 22h, ouais. 23h, toujours à l'antenne de Radio Canu. Et puis voilà, écoutez Canu, il y a plein de choses sympas.
Ouais. Courage et bonheur à toutes et tous et des bisous.
Des bisous.
Ciao, ciao.
Allez.
Il faut couper maintenant.
Oui, il faut couper maintenant. Enfin. On y va.
Ciao.